Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de RLP, de l'émission Constellation. Les écrivains ont parfois la dent dure les uns envers les autres. Voici ce que dit Nathalie Sarraute de Paul Valéry dans un essai publié en janvier 1947 sous un titre facétieux « Paul Valéry et l'enfant d'éléphant ». Je la cite « Académicien glacé, grasse guindée, minauderie prétentieuse de vieille coquette, stuc néoclassique, artifices et pastiches, laborieuses variations, mièvres affaîtries. » Et Régis Debray, qui cite ce jugement au vitriol, dans un petit essai intitulé « Un été avec Paul Valéry », d'ajouter, je le cite, « Elle n'y est pas allée de main morte », et de citer, in fine, Alceste moquant le sonnet du petit marquis. Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles et vos expressions ne sont point naturelles. Ce renoncement aux primes hautiers, Valéry en avait fait un métier et une méthode avec une poésie méditée, distillée et même déshydratée jusqu'à la provocation. La véritable condition d'un véritable poète est ce qu'il y a de plus distinct de l'état de rêve. C'est une phrase de Valéry. Ou encore, autre phrase de Valéry, « Là où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir à écrire. Même s'il sut, mieux que personne, et de même que Mallarmé, rendre l'abstrait velouté et l'idée pure sensuelle et sensorielle, comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence. Sa paroisse n'était pas du côté d'Artaud et des cris écrits. Son ciselé est des plus mélodieux, mais la libération des mœurs et des règles exigeait un ton plus direct, plus émeutier. Et c'est bien la sensation de ne plus être de son temps qu'avait Valéry lui-même quand il relisait ses vers anciens et concluait « Tout ce que j'ai fait n'a aucun intérêt. Ça manque d'inattendu, ça manque de pauvreté, et on est parfois tenté de lui donner raison. » Julien Gracq, qu'il admirait, ne pouvait s'empêcher de pointer, venu de Mallarmé, un défaut de matière interstitielle et conjonctive, je dirais un peu trop de molécules pour un peu trop peu d'excipients, d'où, je cite, un gavage sémantique congestif, un trop de sens, comme il y a des desserts trop sucrés. Que répondre à cette critique ? Qui n'est pas sûr que le chaud résiste mieux que le froid, et le spontané que le contrôlé ? C'est encore Régis Debray qui aura le mérite de tenter de cerner la polyvalence de l'auteur de pas moins de 265 cahiers de notes, réflexions et digressions. Voici ce qu'écrit encore Régis Debray. Il faut presque lui courir après pour le rattraper. De quelle façon ? En rassemblant ses mêmes bras disjecta pour mettre au jour l'épine dorsale. Ce polyvalent doit à une ouverture de compas sans égale l'absence d'une œuvre centrale capable d'en livrer la substantifique moelle, comme Alcool pour Apollinaire, Les Essais pour Montaigne ou Les Fleurs du Mal pour Baudelaire. C'est une montagne qu'on peut gravir par plusieurs faces, le poète, le moraliste, le philosophe, le critique, le géopoliticien, le dramaturge, le conférencier. Il y a dans ce massif éclaté un poète du XIXe siècle, un penseur du XXe et un chroniqueur de notre XXIe. S'il n'y a pas d'œuvre centrale chez Valéry, il y a toutefois en lui, natif de la ville de Sète, dans le midi de la France, cette ville, chantée aussi par Georges Brassens, la présence sensible de la Méditerranée, de la mer, toujours recommencée. Là encore, Régis Debray voit juste, non seulement lorsqu'il rappelle qu'un même exergue précède le cimetière marin de Paul Valéry et le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, En l'espèce, cette pensée de Pindare « N'aspire pas, ô mon âme, à la vie éternelle, mais épuise tout le champ des possibles. » Mais aussi, lorsqu'il ajoute « Camus, l'Algérois, est de cette famille d'esprits, c'est un petit cousin. Il appellera cette sagesse la pensée de midi. C'est un style de vie non supérieur aux autres, mais différent, avec ses propres allures, plus proche des valeurs du monde païen que des chrétiennes. Il préfère les fables aux dogmes et les mythologies à la théologie. C'est une spiritualité à taille humaine, une pensée de la mesure et des limites, où la lumière est sœur de l'intelligence, non de l'ivresse des cimes, où la nature passe avant l'histoire, où le goût de la beauté et des formes claires conjure les vertiges de l'infini et de l'informe. Valéry est de ceux qui ont donné sa pleine noblesse littéraire et morale à ce qu'on pourrait appeler l'âge de la Méditerranée, auquel succéderont au XXe siècle le temps de l'Atlantique, puis celui de l'océan global au XXIe siècle. La mer intérieure est solidaire d'un humanisme lumineux, pluriel, métis, commerçant, doué pour l'accueil et la conversation, un monde où, chose rare, les dieux se tiennent tranquilles, peut-être parce qu'il n'y en a pas un, mais plusieurs. Quoi de mieux alors pour une première approche destinée à démentir l'âpre jugement de Nathalie Sarraute que de faire entendre aujourd'hui la voix de Jean Villard lisant les premiers sixains en décasyllabes du Cimetière marin, le poème comportant 24 strophes de six vers. Ajoutons que Jean Villard repose lui aussi au cimetière de Sète.
Marche des colombes, entre les pins palpite, entre les tombes. Midi le juste y compose de feu la mer toujours recommencée. Oh, récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume, main diamant d'imperceptible écume, et quelle paix semble se concevoir, quand sur l'abîme un soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille et le songe est savoir. Stable trésor, temple simple à Minerve, masse de calme et visible réserve, eau sourcieuse, œil qui gardes en toi tant de sommeil sous un voile de flamme. Ô mon silence, édifice dans l'âme, mais comble d'or aux mille tuiles, toi. Temple du temps qu'un seul soupir résume, à ce point pur je monte et m'accoutume, tout entouré de mon regard marin, et comme au Dieu mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence dans une bouche où sa forme se meurt, je hume ici ma future fumée, et le ciel chante à l'âme consumée le changement des rives en rumeur. Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change. Après tant d'orgueil, après tant d'étranges oisivetés mais pleines de pouvoir, je m'abandonne à ce brillant espace. Sur les maisons des morts, mon ombre passe, qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. L'âme exposée aux torches du solstice, je te soutiens, admirable justice de la lumière aux armes sans pitié. Je te rends pur à ta place première, regarde-toi. Mais rendre à la lumière suppose d'ombre une morne moitié. Oh, pour moi seul, à moi seul, en moi-même, auprès d'un cœur, aux sources du poème, entre le vide et l'événement pur, j'attends l'écho de ma grandeur interne, amère, sombre et sonore citerne, sonnant dans l'âme un creux toujours futur. Sais-tu, fausse captive des feuillages, golfe mangeur de ces maigres grillages, sur mes yeux clos, secrets éblouissants, quel corps me traîne à sa fin paresseuse, quel front l'attire à cette terre osseuse, une étincelle y pense à mes absents. Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière, fragment terrestre offert à la lumière, ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, composé d'or, de pierres et d'arbres sombres, où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre, la mer fidèle y dort sur mes tombeaux.
Pour ma part, je suis ému d'entendre la voix et la diction de Jean Vilar. Cependant, toute diction est fille de son temps. Aussi voudrais-je, bien plus modestement, lire à mon tour les trois derniers sizains de ce même poème, Le cimetière marin. Ces trois derniers sizains interviennent immédiatement après une évocation du fameux paradoxe de Zénon d'Élée à propos de la course entre le divin Achille et une tortue. D'une certaine manière, les trois strophes viennent démentir ce paradoxe qui se terminait par un fragment de vers, Achille immobile à grands pas. Non, non, debout, dans l'air successive, brisez mon corps cette forme pensive, buvez mon sein la naissance du vent, une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme, ô puissance salée. Courons à l'onde en rejaillir vivant. Oui, grande mer de délire doué, peau de panthère et chlamyde trouée de mille et mille idoles du soleil, hydre absolue, ivre de ta chair bleue qui te remord l'étincelante queue dans un tumulte au silence pareil. Le vent se lève, il faut tenter de vivre, l'air immense ouvre et referme mon livre, la vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie, rompez, vague, rompez d'eau réjouie, ce toit tranquille où picoraient des phoques. Il y a parfois, dans la vie de certains penseurs, des nuits de transfiguration. Je cite encore le petit livre de Régis Debray, intitulé « Un été avec Paul Valéry ». Pascal est sorti transformé de la nuit dite du mémorial, certitude, certitude, sentiment, joie, extase mystique qu'il a retiré de la vie mondaine. Descartes a rencontré la méthode et sa voix dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619. Dans l'Odyssée valérienne, le rôle fut tenu du 4 au 5 octobre 1892 par la nuit de Gênes, où il était venu visiter sa tante. Je cite Valéry. « Nuit effroyable, passé assis sur mon lit, orage partout. Ma chambre éblouissante par chaque éclair et tout mon sort se jouait dans ma tête. » Que lui a donc révélé cette nuit zébrée d'éclairs, comme il convient, la vanité de la littérature et la nécessité de lui trancher la tête, fût-ce celle hors de prix de Mallarmé lui-même. La littérature se nourrit d'émotions obscures, de passions irrationnelles, de faux mystères et de délires sexuels. Il faut donc s'en retirer, étouffer le moi en soi et s'adonner non plus aux arts, ce faux semblant, mais à la science, anonyme, universelle et qui, elle, ne trompe pas son monde. L'esprit seul peut rédimer la chair. La sensibilité, voilà l'ennemi. Autant dire la foule elle-même, par nature écervelée. 100 000 esprits agglomérés font une pensée nulle. Valéry avait été amoureux à Montpellier d'une inconnue à particules, baronne de son état, dont le fantôme le poursuivait. Il décide de ne plus jamais tomber amoureux, tant l'amour est une promesse de malheur, et de ne plus s'enthousiasmer pour rien. L'enthousiasme est toujours une erreur de raisonnement. De là viendra une longue abstention, presque 2 décennies de silence ou d'essai mezza voce entre 1897 et 1917. Valéry remplace un dressage sportif par un autre. Ce n'est plus l'haltérophile de l'assonance et de la césure, un gymnaste de la strophe avec des poèmes par centaines, mais une machine à calculer. Il ne compose plus, mais aligne des équations au tableau noir dans sa petite chambre de la rue Gay-Lussac, comme d'autres font des gammes. Il lit Henri Poincaré, le mathématicien, suit les cours de physique de Marie Curie. Il ne veut plus que des CQFD, guerre aux grandiloquences, avec mise au piquet de Victor Hugo, un grand poète d'étoffe commune, comme il le nomme, place aux mathématiques. Cette vanité de la littérature est cependant bien souvent contredite, lors même que Valéry, relisant ses vers anciens, on l'a déjà cité, pouvait conclure « Tout ce que j'ai fait n'a aucun intérêt, ça manque d'inattendu, ça manque de pauvreté. » On se permettra de le contredire, surtout lorsqu'on découvre le poème que je vais lire, intitulé « Les pas ». Tes pas, enfant de mon silence, saintement, lentement placé, vers le lit de ma vigilance, procèdent, muets et glacés. Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux tes pas retenus. Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi sur ces pieds nus. Si, de tes lèvres avancées, tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. Ou encore, cet autre poème, intitulé « La fileuse ». Assise, la fileuse au bleu de la croisée, où le jardin mélodieux se dodeline, le rouet ancien qui ronfle la grisée, l'as, ayant bu l'azur de filer la câline chevelure, à ses doigts si faibles et évasives, elle songe et sa petite tête s'incline. Un arbuste et l'air pur font une source vive qui, suspendue au jour, délicieuse, arrose de ses pertes de fleurs le jardin de l'oisive. Une tige où le vent vagabond se repose courbe le salut vin de sa grâce étoilée, dédiant magnifique au vieux rouet sa rose. Mais la dormeuse file une laine isolée, mystérieusement l'ombre frêle se tresse au fil de ses doigts longs et qui dorment, filés. Le songe se dévile avec une paresse angélique et sans cesse, au doux fuseau crédule, la chevelure ondule au gré de la caresse. Derrière tant de fleurs, l'azur se dissimule, fileuse de feuillage et de lumière sainte,